Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.com.
Esprit, es-tu là?
Eustache Daugé de Cavoua, a-t-il été oui ou non mêlé à la...
La séance à laquelle vous assistez en ce moment s'appelle spiritisme. Le but est d'entrer en contact avec l'esprit des morts.
Sommaire aujourd'hui, une émission spéciale paranormale, enfin consacrée à l'une de ses branches plutôt, différents moyens de communication avec les morts, que ce soit la médiumnité, la nécromancie, les voix électroniques, le Ouija, l'écriture automatique, autant de pratiques que l'on retrouve dans le documentaire d'Anaïs Gérard Blanc, Les cimetières sont vides. Nous reviendrons donc sur ce film en compagnie de sa réalisatrice, puis nous échangerons sur quelques films consacrés à ce sujet. En compagnie de Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous entendent.
Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui, chaque nuit de pleine lune, enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas.
Salut Damien, salut GG et bien évidemment, salut à toutes.
Esprit, es-tu là? J'ai envie de dire à Thomas. Alors, je ne sais pas si l'esprit est là, mais en tout cas, Anaïs Gérard Blanc, elle, mon cher Thomas, elle a décidé de partir quelque part à la recherche d'un être cher. Et c'est la démarche qu'elle nous explique dans le documentaire « Les cimetières sont vides ».
J'ai rencontré Anaïs Gérard Blanc, qui est une jeune femme, qui est une jeune réalisatrice, en fait, une jeune documentariste, lors d'un festival à Carcassonne, où elle travaillait, elle faisait les petites vidéos de communication pour le festival. Et en discutant comme ça, elle me dit qu'elle réalise un documentaire sur la communication avec les morts. Alors, moi, ça m'intéresse, hein, ce genre de sujet-là. J'ai sauté dessus et donc, je lui ai dit que j'avais donc une émission, hein, Culture Prohibée, et que ça nous intéressait de pouvoir éventuellement l'interviewer, de voir le film d'abord et de pouvoir l'interviewer autour d'une émission qui pourrait s'articuler autour de films où on parle avec les morts, sur le paranormal, etc. Donc voilà, nous avons pu voir le film, hein, chacun de nous, enfin maintenant qu'il est terminé. Et dans ce film, elle se met en scène où elle essaye de communiquer avec quelqu'un effectivement qu'elle a perdu, un être cher qu'elle a perdu, et elle veut pouvoir communiquer une dernière fois avec cette personne en allant voir différentes personnes différentes personnalités qui affirment communiquer avec les morts. Donc c'est quelque part, c'est aussi un documentaire initiatique, une quête personnelle, où la jeune femme essaye aussi de faire son deuil de cette amie qu'elle a perdue à travers ses différentes rencontres avec le paranormal. Alors, elle rencontre des radiesthésistes, elle rencontre des personnes qui communiquent avec les morts via la radio, via les ondes. Donc, c'est un documentaire qui est quand même qui interroge, qui peut être dérangeant et qui, à mon avis, peut faire peut amener des débats, des discussions intéressantes. Vous l'aurez compris, hein, Les cimetières sont vides, c'est un documentaire plutôt introspectif d'Anaïs Gérard-Blanc. Anaïs Gérard-Blanc qui est une toute jeune réalisatrice qui a d'abord fait quelques pas sur les planches au cours de ses études avant de se tourner vers un BTS montage, puis une école de cinéma en réalisation à Toulouse. Elle est également intervenante en cinéma auprès du jeune public. Elle est d'ailleurs l'une des personnes initiatrices de Creativan, je ne sais pas comment on prononce Creativan ou Creativan, un laboratoire ludique d'éducation aux médias. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce laboratoire, vous pouvez vous rendre sur le site internet creativan.org. Anaïs Gérard-Blanc n'a pas réalisé que Les cimetières sont vides. Récemment, elle a aussi signé un documentaire intitulé Le Tale et qui évoque cette commune ardéchoise du même nom et qui a subi un tremblement de terre le 11 novembre 2019. Donc, elle s'attache à suivre les gens qui ont subi cette catastrophe naturelle et qui se retrouvent sans logement ou démunis de quelque façon que ce soit. Et j'ai demandé surtout à Anaïs Gérard-Blanc comment elle en est venue à réaliser ce documentaire « Les cimetières sont vides ».
« Les cimetières sont vides », c'est ton premier film ?
Non, c'est mon premier moyen-métrage. J'avais fait des courts-métrages avant, hein, qui s'appelle « Tout est permis », et l'autre qui s'appelle « Hirondelle », des fictions. Et là, c'est mon premier documentaire en moyen-métrage.
Ah, donc ce documentaire, il a une histoire particulière. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur sa genèse ?
Il y a quelques années, donc c'était il y a 3 ans et demi. On a commencé et on a tourné il y a 2 ans. Donc il y a 3 ans et demi, j'ai un ami très proche qui est décédé dans un accident de montagne. Et à partir de là... toutes les personnes un peu autour se sont demandé qu'est-ce qu'on fait. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas qui ont perdu quelqu'un et qu'est-ce qu'on fait après un décès. Et de mon côté, j'étais en train de terminer mon école et j'avais besoin de faire quelque chose. Et je commence à entendre parler de la part d'autres proches, d'histoires un peu étranges qui se sont passées juste après son décès. Et moi qui ne connais pas du tout le monde, on va dire paranormal, je commence à m'intéresser à ces sujets-là, à lire des livres sur la médiumnité, sur les signes. Et puis petit à petit, je me dis, il faut que je fasse un film. Il faut que je fasse un film pour pouvoir contacter ce garçon, donc Malcolm, qui est dans le film aussi. Et donc je contacte plusieurs médiums, je contacte des médecins, des psychothérapeutes, et le film est né de ça, avec un gros soutien derrière de la part de la famille, des copains.
Donc tu viens de dire que tu ne connaissais pas du tout le monde du paranormal, et philosophiquement, toi, avant de faire le film, avant cet événement, où te situais-tu athée, agnostique, croyante?
Alors moi, je viens d'une famille athée, donc je ne me suis jamais vraiment posé plus de questions que ça. On m'a dit, voilà, quand on est mort, on est de la poussière, et quand on est petit, on essaie de pas trop y penser. Et puis, donc voilà, avant l'événement, avant le film, j'étais là-dedans. Et après, voilà, il s'est passé des choses qui m'ont fait changer d'avis. et qui m'ont fait dire, bon, voilà, il y a quand même des choses étranges qui se passent.
Écoutez Culture Prohibée.
Que peux-tu nous dire sur ton changement, sur ce que tu as vu, sur ton état d'esprit après? En quoi ça t'a changé, toi?
Pour moi, ça m'a ouvert l'esprit. C'est-à-dire que, en fait, de ne pas croire, c'est une forme de croyance. Et maintenant, Je suis ouverte à ce qui peut arriver. Je ne vais pas dire que je ne crois pas et je ne vais pas dire que je crois. Mais ouais, il y a des choses qui arrivent, que les hommes en général ont besoin d'expliquer. Et moi, j'essaie de ne pas forcément expliquer les choses, mais de les accepter. C'est-à-dire les choses un peu étranges qui se passent et qui arrivent à tout le monde. Hein. C'est une petite anecdote assez rigolote, c'est quand j'ai commencé à parler de ce film autour de moi, alors des gens que je connaissais ou des gens que je connaissais pas, chacun avait quelque chose à raconter. Une histoire qui leur est arrivée. Alors moi, j'ai un copain qui m'expliquait que sa mère était médium. Il y en a une autre qui disait qu'il y avait un fantôme dans sa maison. Et tout le monde a quelque chose à dire sur ce sujet. Mais c'est tellement devenu tabou de nos jours qu'on a peur d'être pris pour un fou et on n'ose pas en parler. Donc le fait que je fasse ce documentaire, ça a permis à beaucoup de personnes de pouvoir se livrer et de me dire et de me raconter des histoires qui leur sont arrivées. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense.
Et justement, est-ce que c'est l'idée de faire un documentaire sur ce sujet qui est venu, ou c'est le fait que tu t'es intéressé à ces phénomènes qui t'a donné l'idée de faire le documentaire?
Alors vite, en fait, pendant les jours, les semaines qui suivent, il y a vite eu des signes. Alors, on peut appeler ça des signes du hasard, mais bon, des choses qui nous ont touchés, qui m'ont touché profondément pour que je me dise oula, il y a quelque chose qui se passe. Et ensuite, à partir de là, j'ai voulu en faire un film. Je pense que le fait de vouloir faire un film, c'est aussi une façon de ne pas se faire trop juger. Je ne sais pas si vous comprenez.
Si.
J'ai commencé à faire le film pour moi, complètement. J'avais besoin de ça pour me renseigner en fait sur les sujets. Puis bon, comme ça, j'avais qu'à dire, oh bah je fais un film, alors on a un peu tous les droits quand on fait un film. On peut s'intéresser un peu à n'importe quel sujet. Et ensuite, par la suite, c'est devenu aussi pour les autres. Finalement, en fait, en en parlant, c'était plus qu'un film pour moi. Ça a été un film thérapeutique, surtout au début, et par la suite, ça a été un film que j'avais envie de montrer pour dire aux autres que qu'il y a des possibilités.
Dans tes recherches, dans tes rencontres, tu ne t'es jamais dit à un moment je suis sur un imposteur, je suis sur un escroc, je suis tombé sur un escroc. Tu ne t'es jamais dit ça, et qu'est-ce qui a fait que tu as été convaincu?
En fait, j'ai choisi les personnes, c'est-à-dire que j'ai rencontré 5 personnes. Et ces personnes que j'ai choisies, c'était parce que pour moi, c'était pas des escrocs. Donc il y a eu un travail avant de documentation, de rencontre avec ces personnes-là. Et donc c'était souvent des gens qui ont écrit des livres, soit qui ont déjà... qui sont déjà un peu reconnus dans leur milieu, ou alors qu'on m'a recommandé. Alors oui, forcément, quand on rencontre ces personnes, il y a des moments où on se dit « oulala, mais qu'est-ce qu'ils me racontent ?» Après, c'est toute une interprétation. Les personnes que j'ai rencontrées, j'ai totalement confiance en elles, dans le fait que ces personnes-là croient vraiment en ce qu'ils font. Après, que ce soit vrai ou pas vrai, ou que ce soit d'une autre façon, c'est juste que les personnes que j'ai rencontrées sont persuadées qu'elles sont médiums, sont persuadées d'entendre des voix. Et du coup, forcément, ça, on a envie de les croire.
Et qu'est-ce qui t'a convaincu, toi?
Qu'est-ce qu'est-ce qui m'a convaincue? Qui m'a convaincue, j'ai pas été convaincue de... j'ai pas été convaincue qu'il y a une vie après la mort, par exemple. J'ai plus été convaincue qu'il y a des choses inexplicables et qu'on ne saura pas d'où ça vient. Et ça peut être, c'est des petits détails, ça peut être... je pense que c'est plus des petits moments, en fait, des petits moments qui se passent. Il y a la transcommunication instrumentale, en fait, c'est des... Donc là, c'est avec une association qui mettait une radio en route. Et la radio, il faisait un balayage radio, donc il y avait une demi-seconde sur chaque fréquence, donc ça faisait un fou. Et ces personnes de l'association posaient des questions. Et il y a des mots qui apparaissaient à la radio qui répondaient plus ou moins aux questions qu'on posait. Donc là, pour moi, c'était un peu plus impressionné parce que c'est direct, c'est-à-dire que ça passe pas par quelqu'un qui va nous dire qu'il nous a dit ça. C'est vraiment, on entend une réponse en direct. Et c'est assez impressionnant.
Thank you.
écouter Anaïs Gérard Blanc au micro de Culture Prohibée.
Alors d'où ça vient, je pourrais pas l'expliquer. Après, ce que je suis à peu près sûre, c'est que il y a déjà eu des tests qui ont été faits sur les antennes et sur ce qui et que ça n'a pas été les ondes n'ont pas été modifiées. Donc, eux expliquent que les énergies ou les esprits ont besoin d'un bruit blanc pour communiquer. Donc là, c'était le bruit de la radio. Et que ça a modifié, en fait, les fréquences avec ce bruit blanc et que c'est pour ça qu'il y a des mots qui apparaissaient. Et effectivement, après, voilà, en se renseignant, on trouve plein de choses là-dessus et c'est des choses assez étranges et qui sont assez fascinantes, en fait. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est assez fascinant. Et je pense que c'est beaucoup la fascination qui m'a donné envie de continuer mes recherches là-dedans.
Et ce balayage radio se faisait donc tout seul?
Le balayage radio, il le mettait en automatique, donc on avait vraiment un balayage radio automatique. C'est ce qu'il faisait tout seul, c'est les voix qui apparaissent, en fait. Voix, après, c'est des oui, c'est des non, c'est des... Voilà, c'est des petits détails. Et puis en même temps, tout le monde n'entend pas la même chose aussi. Mmh. Je ne sais plus comment ça s'appelle cet effet-là, où quand on nous dit qu'il a dit ça, ben forcément on va entendre cette chose-là. Mmh. Mais si on ne le dit pas, on ne va pas forcément l'entendre.
Et à quel point c'était important pour toi de faire ces recherches, de faire cette expérience face à la mort d'un proche?
Je pense que je pouvais pas rester sans rien faire. J'avais besoin de faire quelque chose. Ce qu'on appelle un peu la résilience aussi, c'est que voilà, quand on vit quelque chose de très fort, on a besoin de se rassurer. Alors selon les personnes, hein, c'est sûr. Mais en tout cas, moi, j'avais vraiment besoin de faire quelque chose et de faire tout en sorte que je puisse réussir à communiquer avec lui.
Tu n'as pas eu peur d'aller explorer ce monde-là. À aucun moment dans tes recherches, tu as eu peur. À aucun moment, tu t'es dit où est-ce que je mets les pieds.
C'est un monde que quand on commence un peu à explorer, c'est vrai que c'est dur de s'arrêter. Parce qu'il y a toujours plus de choses, il y a toujours des histoires en plus. Et non, j'avais pas peur parce que je savais que j'avais aussi une certaine force derrière ça. C'est-à-dire que bah forcément, quand on perd quelqu'un, on peut se sentir vulnérable. Et je savais que j'avais pas cette vulnérabilité dans le sens où je faisais quand même attention et le but était de pas me faire pas de plonger dans une secte ou quoi que ce soit. Mais mes proches ont eu plus de peur que moi. Quand on voit quelqu'un se documenter à fond sur un sujet alors que j'aurais pu être dans une situation où j'aurais pu être vulnérable, oui, ça peut faire peur.
Et aujourd'hui, où en es-tu de ce travail de deuil et en quoi ces expériences ont changé ta vision de la vie?
Ça a été un peu compliqué parce que ça a mis beaucoup de temps. En fait, on a tourné il y a 3 ans. Et le montage s'est terminé il y a à peu près 6 mois. Donc ça a pris beaucoup de temps au montage et en fait même dans ma vie personnelle, donc c'est-à-dire de devoir se replonger dans ce film et de me voir aux 6 mois à cette période-là, comment j'étais et comment je suis maintenant. Ça n'a pas été évident, sachant que je suis dans le film, donc que je me voyais, et que j'ai monté aussi. J'ai fait le montage du documentaire. Donc tout le processus de montage a pas été évident, mais maintenant je suis contente d'avoir pu terminer. En même temps, voilà, c'est une page qui se tourne d'un point de vue thérapeutique, et d'un autre côté, c'est une autre qui s'ouvre pour les autres, pour pouvoir diffuser ce documentaire et pour pouvoir en parler autour de moi. Donc maintenant où j'en suis, au niveau de tout ça, c'est que j'ai appris énormément de choses. J'ai rencontré des mondes que j'aurais jamais pu rencontrer autrement, et moi j'adore rencontrer des personnes de différents horizons. C'est la différence qui nous aide à avancer. J'ai pris du recul aussi par rapport à ce que j'ai vécu, forcément, parce que quand on vit des choses très fortes sur le moment, on s'imagine forcément plein de choses, on interprète ça comme on veut, et puis après avec le temps, on l'interprète d'une façon différente. Mais ça m'a apaisé sur certains points aussi. Sur le fait que il y a des choses très étranges qui se passent qu'on n'explique pas et qu'on ne pourra pas expliquer.
Et au cours de ces recherches, parce qu'en général, on dit que les esprits, ceux qui travaillent dessus, ceux qui y croient, disent que les esprits, les fantômes sont plutôt bienveillants, que les fantômes, les méchants fantômes, on les voit que dans les films en général. Mais tu n'as jamais eu de mauvaises rencontres, quelque chose qui t'a fait peur, tu n'es jamais tombé sur quelqu'un qui te mentait, qui se faisait passer pour ce qu'il n'était pas?
Non, alors... Moi, j'ai plus envie de croire aux belles énergies. Après, j'ai entendu des histoires de personnes qui ont des mauvais esprits chez eux, des mauvais fantômes. Mais non, et puis finalement, moi, je trouve que le fait de savoir que c'est des bonnes énergies, des bons esprits, entre guillemets, ça rassure. Par exemple, on a tous eu peur quand on était petit de ce fantôme qui faisait du bruit la nuit, ou même quand on était plus grand, où on entend une porte qui claque, on ne sait pas pourquoi, où on entend d'autres bruits. Et en fait, juste de se dire, ça se trouve, la personne la personne ou l'entité ou l'énergie qui a voulu à ce moment-là claquer la porte, en fait, ça se trouve, c'était juste pour dire bonjour. Donc non, finalement, c'est... Moi, je trouve ça plus rassurant, en fait.
Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Thank you.
Vous écoutez Anaïs Girard-Blanc, réalisatrice de Les cimetières sont vides, au micro de Culture Prohibée.
Donc le film, comment tu l'as travaillé? Comment tu as défini ta démarche de réalisation? Et au montage, qu'est-ce que tu as gardé? Qu'est-ce que tu as écarté et pourquoi?
Il faut savoir que quand on écrit, quand on veut faire un documentaire, donc quand on veut faire un dossier de production d'un documentaire, il faut écrire un scénario. Pour moi, ça a été la partie la plus compliquée. C'est-à-dire qu'il fallait que j'écrive un scénario sur des choses dont je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Même si j'ai fait des recherches sur... je savais qui est-ce que j'allais rencontrer, je savais un petit peu mon fil directeur. Mais je ne savais absolument pas ce qui allait se produire sur place. Donc, bon, j'ai plus ou moins inventé l'écriture. Et... je savais exactement qui est-ce que j'allais rencontrer. Donc il y avait Marc Vernet, qui est psychanalyste et psychothérapeute, avec qui j'ai fait de la communication induite après la mort. Il y avait Laurence Lécaud, donc c'est elle qui faisait de la transcommunication instrumentale avec une association. Il y avait Christian Cambois, qui est médium au pendule. Et Céline Bossen-Sommer, qui était médium, qui rentrait dans une méditation profonde, enfin en transe. Et Jean-Jacques Charbonnier, qui est assez connu, lui, qui est médecin anesthésiste réanimateur et qui est un spécialiste des expériences de mort imminente. Et donc, avec lui, on a fait des transcommunications hypnotiques, donc sous hypnose. Donc, je savais exactement voilà, les cinq personnes que j'allais rencontrer, les questions... J'avais plein de questions en tête, forcément. Bon, après, arriver devant les personnes, toutes les questions sont un peu parties. Parce que c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on se demande. Si jamais on avait en face de nous une personne qui nous est chère et qui est décédée, qu'est-ce qu'on lui dit? Donc, le premier truc qui nous vient à l'esprit, c'est comment ça va? Bon, et ce n'est pas non plus voilà, le genre de questions que j'avais envie de poser. Et puis ensuite, ça a été un énorme boulot de montage. C'est-à-dire qu'on est parti à trois à chaque fois. Donc on était vraiment en équipe réduite. Il y avait une personne à la caméra, une personne au son et puis moi. Et du coup... On a chaque séance, on a dû filmer ouais, entre 4 et 7 heures par séance. Donc on avait beaucoup, beaucoup de rush. Et au montage, c'est là où le film s'est vraiment créé. C'est qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas. J'ai voulu prendre un peu tout, c'est-à-dire des choses qui m'ont touchée. D'autres choses où je comprenais pas forcément ce qui se passait. Même dans les émotions, j'ai essayé que ça soit... Enfin, le but était aussi de faire un film pas trop plombant, parce que c'est pas non plus un sujet facile, mais pour moi, c'était plus une quête optimiste. Donc, il y a des moments qui peuvent être drôles aussi. Et c'est vrai que le film, moi, c'est vraiment créé au montage. Et même dans la voix off, c'est-à-dire que tout le long, il y a une voix off, et c'est une fois un premier montage, un premier bout à bout terminé, qu'on a écrit la voix off, enfin que j'ai écrit la voix off, qu'on a enregistré.
Alors tu as dit que tu as dû écrire un scénario parce que visiblement tu es passé par une commission ou pour avoir des subventions ou quelque chose, et c'est compliqué de faire accepter un tel projet auprès d'une commission pour toucher justement ces subventions ou une aide à l'écriture ou...
Oui. Au début, je l'ai fait parce que j'ai l'habitude de le faire, et puis finalement, ça aide aussi à savoir de quoi on parle, et c'est toujours bien voilà, de faire une note d'intention, d'écrire de quoi on veut parler. Mais finalement, je ne l'ai pas envoyé.
C'est-à-dire que le dossier, j'ai pas voulu l'envoyer parce que c'était trop personnel. J'avais pas forcément envie qu'on me dise qu'il fallait changer ça ou ça. Et que moi-même, je savais pas du tout où ça allait nous amener. Effectivement, les personnes que j'ai rencontrées auraient très bien pu être des charlatans. Donc est-ce que j'aurais pas fait le même film si ça avait été ça?
Au niveau de la vie du film, comment envisages-tu sa diffusion? Comment comptes-tu toucher le public avec?
Bonne question. C'est-à-dire que pour l'instant, je l'ai envoyé aux personnes qui sont intéressées. Et donc là, j'ai une projection prévue sur Marseille, mais c'est avec des personnes, c'est le psychothérapeute qui a proposé cette séance-là, donc c'est avec des personnes du milieu qui connaissent, et j'ai fait une séance sur Toulouse, où là c'était super intéressant parce que c'était des personnes qui ne connaissaient pas du tout ce monde-là, et que ça a fait écho à quelques personnes et qui... Donc c'était vachement touchant. Après, c'est vrai que c'est un film qui est difficilement diffusable par le sujet et aussi par le fait que ça soit à ce point personnel. Ça peut pas être diffusé dans la plupart des festivals parce qu'en général, c'est pas trop ce qu'on recherche. Donc pour l'instant, il y a des diffusions de prévues, mais c'est vrai que j'ai pas fait une énorme communication derrière pour la diffusion.
D'accord. Donc tu es ouverte à éventuellement des propositions de soirées pour diffuser, soirées débat, etc.
Voilà. Ouais, oui, complètement. Oui, et puis ce que je trouve que c'est intéressant, de toute façon, c'est un film où on n'en sort pas forcément. Enfin, je pense qu'on n'en sort pas indemne, c'est-à-dire que... Ça ouvre le débat et je pense que oui, une discussion est quand même assez intéressante après ou quelques temps après.
Thank you.
Vous écoutez Culture Prohibée. Je ne sais pas si c'est un documentaire dérangeant, mais bon, il y a des choses que j'ai apprises hein, en regardant ce documentaire. Je ne connaissais pas du tout cette utilisation des ondes radio, par exemple, là, pour récupérer des sons. C'est un moment assez troublant. On se demande un peu si les gens qui pratiquent cette technique qui consiste en fait à se balader un peu pour capter des ondes et en utilisant des appareils de radio, évidemment, pour essayer de capter des sons et de mettre bout à bout les sons. Alors, ça fait une sorte de gloubi-boulga comme ça de son, une bouillie sonore. Et au bout d'un moment, ça fait sens. C'est assez étonnant. Ce moment-là, moi, du documentaire, je l'ai trouvé c'est un moment assez singulier. Je trouvais ça assez saisissant, en fait, comme moment du documentaire. Après, moi, je ne suis pas persuadé hein, par tout ce que je vois, par toutes les personnes qu'elle croise. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que je sens qu'elle se fait du bien, en tout cas, que ça lui fait du bien, que d'aller à la recherche de cette personne lui fait du bien et qu'elle a envie de retrouver les bonnes ondes de cette personne, quoi, hein, voilà, qu'elle aimait beaucoup, qui est symbolisée d'ailleurs parce que c'est un documentaire, mais pas un documentaire où on se contente de filmer, elle se contente de se filmer en situation où il y a vraiment des choses. En termes de mise en scène et tout, qui sont travaillés, y compris il y a l'utilisation des petits personnages d'animation. J'en dirai pas plus, qui sont incrustés dans l'image. Mais néanmoins, oui, moi, je suis resté assez troublé, assez dubitatif, en fait, devant ce documentaire. Tout m'a pas convaincu, sincèrement, dans ce que j'ai vu. Mais la démarche est effectivement très intéressante, parce que c'est pas une démarche ni condescendante, ni prosélyte. C'est ni prosélyte ni condescendant. C'est-à-dire qu'on est dans de l'observation de ces différentes pratiques qui sont liées au fait de communiquer avec les morts. Et en ce sens-là, c'est intéressant. Et c'est sûr que ça nous sort des films habituels consacrés au genre. On est habitué un peu que ce soit un peu caricatural. Je pense par exemple même des bons réalisateurs comme Flanagan, son Ouija qui était la préquelle du premier. Enfin voilà, je trouvais ça le film est intéressant, mais je trouve que j'avais jamais vu en fait le fait de communiquer avec les défunts sous l'angle de ce documentaire en plus, c'est un documentaire assez sensible, assez touchant, donc c'est assez étonnant. Même si moi, je reste dubitatif hein, devant certaines choses que je vois, je reste assez passionné par le documentaire, de bout en bout, qui me tient de bout en bout, où j'ai vraiment envie de savoir où ça va me mener. Mais moi, je ne trouve pas l'aboutissement qu'elle trouve, en fait, en faisant ce périple.
Je suis d'accord avec tous les deux, notamment du fait que c'est une démarche assez initiatique, vu qu'on a son point de vue et qu'on la suit. Et également que c'est une démarche intéressante de s'attaquer à cela, justement parce que avec son travail, finalement, elle réalise un documentaire tendre sur finalement l'actualité dans ce qui peut être de contacter les morts. C'est vrai qu'à travers les films horrifiques, on a tendance à les parodier d'une certaine façon, en faisant une menace qui conduit à un enchaînement de péripéties, ce qui fait du coup de son documentaire un élément assez rare et éventuellement précieux à notre époque. C'est très intéressant vu que justement il y a le temps qui s'écoule à travers son film et qu'il y a vraiment une progression qui se fait d'elle-même à travers les différentes personnes qu'elle rencontre. Après, en tant que scientifique, c'est vrai que par rapport à tout ça, je suis totalement déconnecté et que je n'y crois pas. Mais après, ce qui est intéressant, justement, c'est ce que je disais, c'est qu'on en fait une sorte d'état des lieux, alors que le contact des morts remonte à très longtemps et que, par exemple, une des grandes périodes de popularité, c'est la fin du 19e et le début 20e, notamment avec les séances de Victor Hugo qui y va pour essayer de retrouver sa fille. Donc je trouve que c'est un documentaire vraiment intéressant aujourd'hui.
Bon, vous dites que on est généralement dans le cinéma fantastique, plutôt dans le cinéma de terreur, on est dans la parodie avec des morts menaçants qui reviennent pour menacer les vivants, les ossir, les manger ou leur donner quelques malédictions ou je sais pas quoi. Mais moi, ce documentaire-là, ça me fait penser à un film que j'aime beaucoup, un film de Joseph Mankiewicz, qui s'appelle The Ghost of Mrs. Muir, l'aventure de Madame Muir en français, où là, justement, il y a une communication avec les morts qui n'est pas dans la parodie. On est plus dans une forme de cinéma romantique, de comédie romantique et fantastique, où avec Jean Tierney qui emménage dans une maison où il y a un fantôme incarné par Rex Harrison, un vieux loup de mer qui est mort, et va se nouer entre les deux une relation romantique. Donc moi, ça me fait plus penser à ça. Bon, il y a aussi une histoire de temps qui passe, etc. Dans ce film-là, c'est pas tout à fait la même thématique, mais l'aspect de renouer avec une personne qui est morte et pour renouer un lien affectif ou nouer un lien affectif, ça me fait penser à ce film-là, The Ghost of Mrs. Muir. Donc on n'est pas seulement non plus dans le cinéma, dans la parodie. Donc voilà.
Alors, le terme parodie n'était peut-être pas le terme approprié, Thomas, c'est pas ce que je voulais dire, mais je veux dire qu'on reprend les stéréotypes un peu liés à ces pratiques et qu'on retrouve donc ça de manière assez stéréotypée au cinéma. Si je devais rapprocher un film, tu vois, de The Ghost and Mrs. Muir de Mankiewicz, un autre film, je prendrais un film, alors, qui est plus un film d'exploitation, mais qui est un très beau film aussi, je trouve, alors qui n'est pas un film de fantôme pour le coup, qui est un film plutôt de revenant, donc avec un zombie. C'est le film de Bob Clark, Le Mort-Vivant, où en fait on a ce garçon qui est mort à la guerre, du Vietnam, et sa mère ne l'accepte pas. Puis un jour, ce garçon revient frapper à la porte. Et elle fait comme s'il était normal, sauf que c'est un mort-vivant en fait. Et il est quelque part un peu la création de son esprit, de cette maman qui ne supporte pas l'idée que son fils soit mort à la guerre. C'est un très beau film, hein, c'est un film très touchant. C'est un film culte, hein, de toute façon. Et même si on n'est pas du tout là sur l'idée des esprits, hein, mais on est sur quelque chose d'avoisinant, je trouve. Alors, c'est pas romantique non plus, hein, mais sur ces liens qu'on n'arrive pas à briser, ne pas accepter le décès de l'autre, vouloir aussi continuer à échanger, dialoguer. Combien de gens, d'ailleurs, on voit aller sur les tombes, dans les cimetières, discuter avec les défunts, voilà. Parce qu'on regarde ça avec condescendance, en fait, on peut regarder ça avec condescendance, dire, voilà, les gens qui font tourner les tables, tout ça, mais en fin de compte, il y a plein de gens qui pratiquent ça, mais qu'est-ce que tu aurais fait toi, où je viens de voir aujourd'hui, où on discute, où... voilà, ça fait partie de l'équilibre aussi, je veux dire, on en a besoin, je pense, non, certaines personnes en ont besoin, voilà. Après, c'est vrai que, pour la personne, moi je suis quelqu'un de très... de très scientifique, dans le sens où je ne crois que je suis comme saint Thomas, moi je ne crois que ce que je vois. Donc effectivement, j'aime, même si Thomas est en studio à côté de moi, je ne crois que ce que je vois. Donc je ne crois pas en fait à l'idée qu'on puisse communiquer avec les morts. Je le dis sincèrement, moi je n'y crois pas. Et le documentaire ne me fait pas changer d'avis. Mais le documentaire me touche à travers le parcours de cette jeune femme qui, je trouve, est très touchant.
Jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu devinez que des dieux se cachaient sous les faces avinées. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu vu ces lumières.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud, Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit la Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne et qu'on soit là ou pas, quand même on y serait. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu étais plus immortel que moi.